Voilà, encore merci de votre accueil. Sachez, au-delà de la formule de politesse, mais sachez que je suis très heureux d'être avec vous. C'est toujours une joie, un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir parler aussi de ce que Jésus dit des enfants, de ce que la Bible dit des enfants. Et voyant déjà quelques petites affiches que j'ai vues ce matin en allant quand Myriam m'a fait visiter l'église, je sais déjà que vous avez un cœur pour les enfants. Quand je vois quelques affiches, voyage autour du monde, je crois, avec les enfants, ah, j'ai dit, ah, voilà, c'est une église qui accueille les enfants. Donc il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais que je sais que vous mettez en pratique, et j'en suis persuadé. Donc, on a vu avec le pasteur Stéphane qu'il serait peut-être bien que ce matin, on puisse avoir non pas une formation technique, comment on prépare une leçon, ça s'adresse davantage aux animateurs. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, comment les animateurs doivent préparer les leçons, mais ça, c'est pratiquement un travail, une séance d'une journée. Donc, on s'est dit, ce matin, ça serait bien de pouvoir parler aux animateurs, aux parents, grands-parents, sur des thèmes un peu plus généraux. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler comment Jésus voit les enfants. Et vous savez, quand il y a par exemple un accident de la route, admettons, il peut y avoir plusieurs témoins. Et quand la police ou la gendarmerie fait son enquête sur le même accident, quand le gendarme ou les gendarmes vont voir les personnes, il y a des récits différents. On a vu l'accident d'une façon différente, pourtant sur le même événement. Et on peut voir aussi que quelquefois dans la Bible, sur le même événement, il peut y avoir, sur le même discours, il peut y avoir une perception différente. Donc, tout d'abord, je vais vous emmener, si vous le permettez, dans un récit que vous connaissez bien, sur le bord du lac de Génézareth, au bord du lac de Galilée, pardon, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, que vous connaissez, passage que vous connaissez fort bien, Marc 6, et on peut commencer la lecture simplement pour les premiers versets. Au verset 32, on peut commencer. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Jésus, s'étant aperçu que ses disciples étaient quelque peu fatigués, avait dit, allez, vous venez avec moi, on monte dans une barque et on va de l'autre côté afin d'avoir un temps de repos dans un lieu désert. C'était le but de leur périple. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et voyant cette foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, dans ce récit que nous avons lu, la première chose que on peut voir, c'est que Jésus, voyant cette foule qui était devant lui, il fut ému de compassion, parce que son regard lui permettait de voir que ces personnes qui étaient là, la foule qui était là, étaient sans berger, livrées à eux-mêmes. Et voyant cela, Jésus se met à leur enseigner beaucoup de choses, comme on peut le voir. Ensuite, au verset 36, il y a le regard des disciples. Peu éloquent, pour l'instant, dans un premier temps. Donc, on peut, verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les! Alors là, c'est un regard très, très compatissant, n'est-ce pas? Les disciples de Jésus. Allez. Jésus voit la foule, ils se mettent à les enseigner. Les disciples, voyant la foule, voyant le soleil qui commence à se coucher, dit, allez. Renvoie-les. Il commence à être gênant pour nous. N'oublie pas, Jésus, que si nous sommes venus ici, c'était pour nous reposer, c'était pour avoir un temps avec toi, un temps de repos, pour pouvoir parler. Alors, cette foule commence à être gênante, alors renvoie-les, s'il te plaît, qu'ils aillent dans les villages avoisinants pour trouver de quoi se nourrir. Voilà donc le regard des disciples. Ensuite, il y a le regard que vous connaissez, le regard du petit garçon. Alors, le récit de la multiplication des pains se trouve dans les quatre évangiles, montrant par cela l'importance de ce récit. Par contre, on ne voit le petit garçon que dans l'évangile de Jean. Il n'y a que dans l'évangile de Jean où il est fait mention de ce petit garçon. Donc, Jean chapitre 6, bien sûr, c'est un récit que vous connaissez bien. Donc, lui, il a un autre regard. Il est spectateur, 6 et au verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Lui aussi était spectateur du même événement. Il était aussi le même auditeur. Il a écouté les mêmes paroles de Jésus. Mais lui, à la différence, c'est qu'il voyait Jésus avec les yeux de son cœur. Ce qui a fait toute la différence. Les disciples étaient avec Jésus. Les disciples vivaient à côté de Jésus. Les disciples entendaient le discours de Jésus. Mais jusqu'à cette époque-là, ils ne voyaient Jésus qu'avec leurs yeux, je dirais, physiques. Ils ne voyaient pas encore Jésus avec les yeux de leur cœur. Et ce petit garçon, lui, il savait que le peu qu'il pouvait donner à Jésus pouvait produire le miracle. Donc, il donne ses 5 pains, vous voyez, vous le savez, il donne ses 2 poissons, et son petit pique-nique, son petit goûter, remis dans les mains de Jésus, a fait le miracle que vous connaissez. Alors, on peut se poser cette question. Tout d'abord, avec quels yeux voyons-nous la foule qui est devant nous, qui est agape? Quels yeux voyons-nous nos enfants qui se trouvent autour de nous? Est-ce que cela nous émeut comme Jésus est ému de compassion? Est-ce que nous sommes émus de compassion? Et est-ce que cela nous pousse à lever nos mains? Comme Lamentation 2.19, il nous est dit, lève tes mains. Lamentation 2.19, Dieu qui parle à Jérémie dit, lève tes mains en faveur de ces enfants qui meurent dans les rues. Pousse même des gémissements. On peut le voir, d'ailleurs, ça va être le thème de la semaine de prière organisée, la deuxième semaine de prière qu'on organise dans le cadre du DEF, département enfants et familles des assemblées de Dieu. Ça va être le thème, lève tes mains en faveur de ces enfants qui meurent. Et non pas pleurer pour histoire de pleurer, mais est-ce que nous sommes émus de compassion? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer pour les enfants? Je confesse que j'ai déjà pleuré pour les enfants. Et depuis quelque temps, je demande au Seigneur, redonne-moi ces larmes. Et je répète, ce n'est pas pour faire du spectacle. Mais est-ce qu'on est ému de compassion? Est-ce que ça va jusque dans nos entrailles? Comme Néhémie, quand il apprend que les murailles de Jérusalem sont détruites, que les portes de la ville sont calcinées, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, ému de compassion, et à tel point que le roi s'est aperçu, mais tu es triste. Et pourtant, il n'avait pas le droit de se présenter devant le roi avec un tel visage, mais il était tellement ému de compassion lorsqu'il a appris l'état de la ville de Jérusalem. Et est-ce que cela, lorsqu'on voit ces enfants dans nos quartiers, est-ce que nous sommes émus de compassion? Avec quel regard voyons-nous nos enfants? Et je pourrais dire aussi, avec quel regard voyons-nous aussi nos enfants de notre propre famille?
j'oserais dire que nous sommes un peu, que nous pouvons ne pas nous laisser interpeller par cette veuve au temps d'Élysée. Quand son mari est mort, elle voit que si elle n'intervient pas, on risque de les prendre pour être des esclaves, le créancier qui va venir. Elle voit la chose. Elle voit, et voyant la chose que le créancier est sur le chemin pour prendre ses deux fils, que fait-elle? Elle va voir Élisée. Elle va voir Élisée pour lui dire, le créancier est en route, risque de prendre mes fils comme esclaves. Et j'ai peur, mes bien-aimés, que beaucoup dans nos familles, de nos assemblées, ne perçoivent pas, ne voient pas que le créancier, c'est-à-dire le diable, est en route pour rendre esclaves leurs enfants. Ils ne voient pas, ils ne discernent pas. Et ça, c'est grave. Ils ne vont pas au pied de Jésus pour dire, Seigneur, interviens, parce que le prince de ce monde est en train de prendre, est sur la route pour prendre mes enfants, mon enfant, pour le capturer. Interviens. Donc, avec quel regard voyons-nous nos enfants? Alors maintenant, considérons pendant quelques minutes, après avoir vu ces regards différents, le regard de Jésus, le regard des disciples et le regard de l'enfant. Maintenant, nous allons essayer de voir pendant quelques instants comment Jésus voyez les enfants. Et comment Jésus voit toujours les enfants aujourd'hui? Parce que l'enfant d'il y a 2000 ans est toujours le même aujourd'hui. Donc, je vais vous emmener de nouveau dans l'évangile de Marc, et au Marc 10, Marc 10, passage que vous connaissez bien, passage pour vous qui travaillez parmi les enfants, que vous devez mémoriser, connaître par cœur, avec la référence, Marc 10, verset 13, que vous connaissez. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. À cette époque-là, il faut savoir qu'en Israël, le toucher est très important. Il faut savoir que parmi les langages, parce qu'il y a plusieurs langages d'amour pour les enfants. Comment manifeste-t-on l'amour aux enfants? Et il y a le toucher. C'est un des langages d'amour les plus importants pour l'enfant. Et évidemment, pour moi, et c'est, je dois faire très attention, surtout quand on est en colonie, pour moi, le toucher est important. N'y voyez pas de mal, bien sûr. Vous avez bien compris. Mais pour moi, j'ai besoin de toucher l'enfant, dans le bon sens du terme, pour lui manifester que je suis là. Et ça fait partie du... C'est un langage d'amour. C'est le langage d'amour le plus important d'ailleurs pour l'enfant, se toucher. Et pour moi, sans que je le sache, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'inné. Et donc, bien sûr, vous avez compris, il faut y faire très attention parce qu'il y a des gens maintenant extérieurs qui regardent et ils peuvent mal percevoir la chose. Je raffole faire les courses avec mon épouse. Quand mon épouse me dit « on va faire les courses », je suis le premier à vous en doutez, je suis heureux. Bon, bref, je fais le sacrifice d'aller dans un magasin avec mon épouse et... Par contre, ça, c'est un langage d'amour. Je sais que ça, c'est le langage de mon épouse. J'ai compris ce langage d'amour, hein, parce que aussi nos femmes, quand on parle, bien sûr, en tant qu'époux, nos épouses ont des langages d'amour. Et nous, en tant qu'époux, ça, c'est à notre sujet, on doit comprendre quel est le langage d'amour qui est important pour mon épouse. Et ça, c'est aller faire des courses avec mon épouse, je sais que ça c'est un langage. On ferme la parenthèse. Et dans un magasin, il y a une petite fille qui était là. Et moi, c'est inné pour moi. Moi, je fais le grand sourire à l'enfant. C'est une petite fille. Mais la maman qui était derrière, elle m'a jeté un regard qui en dit long, qui en disait long. Et là, je me suis aperçu qu'il faut qu'on fasse attention. que pour nous, évidemment, on fait ça d'une façon innocente, parce que c'est dans les entrailles. Mais il y a le regard des autres. En tout cas, Jésus, on lui amène des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, le regard de Jésus, voyant cela, il fut indigné. C'est la seule fois que Jésus est indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et surtout ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, j'oserais dire c'est du sérieux. Attention, là c'est important ce que je vais vous dire. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. C'est une condition sine qua non. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas un prophète. C'est important ce que disent les prophètes. Ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est important ce que dit l'apôtre Paul. On n'y revient pas. Mais là, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, le Fils de Dieu. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça, c'est une condition. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un petit enfant. Et ça, on n'y revient pas. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est Jésus qui le dit. Ne remettons pas en question ce que Jésus nous dit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, à dire là-dessus. Puis, il est pris dans ses bras et il est béni. Malheureusement, on n'a pas le temps de le dire. Encore ici, comme je le disais hier, j'ai parlé le mot « impax ». Dans le grec, l'hébreu hier, il y avait un « impax », l'instruction, Proverbe 22:6. Là, c'est aussi un « impax ». C'est marqué « béni », mais dans le grec, c'est un nom particulier, « eulogios », et c'est qu'à cet endroit-là. Jésus va bénir les malades, il va le faire avec de tout son cœur. Jésus va bénir les adultes, il le fait de tout son cœur. Mais quand Jésus prie pour les enfants, c'est « eulogios ». C'est particulier. J'oserais dire, c'est le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Alors, évidemment, dans certaines versions grecques, qu'il y a plusieurs, malheureusement, il y a plusieurs versions grecques, on retrouve le géos à certains endroits, mais dans la vraie version grecque, on le trouve qu'à cet endroit-là. Mais ça, c'est... Je ferme la parenthèse, parce que là, sinon, on est parti pour un cours que l'on fait... À l'ITB. Alors, voilà comment Jésus voit l'enfant. Il va les accueillir. Il y a aussi le regard des parents. Les parents, voyant Jésus, entendant Jésus, va conduire les enfants. Et ça, c'est important. On lui amena. On peut voir que on lui amena. Ce ne sont pas les enfants qui sont venus à Jésus tout seul. On lui amena. D'où l'importance, à nous aussi, en tant qu'adultes, en tant que parents, d'amener nos enfants à Jésus. On lui amena. Ils ne viendront pas seuls à Jésus. Il faut les lui amener. Donc, il y a le regard de Jésus qui les accueille. Et maintenant, il y a encore le regard des disciples. Le regard des disciples, pour l'instant, pas encore éloquent. Ça changera après la Pentecôte. Les écailles disparaîtront, d'où la nécessité que pour s'occuper des enfants, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est une nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Mais en tout cas, à cette époque-là, les disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Renvoie-les ! Jésus, n'est pas venu pour les enfants. Jésus, lui, il est venu pour les adultes. Jésus est venu pour faire les choses sérieuses, pour parler aux adultes. Il n'est pas venu pour s'occuper des enfants. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Alors Jésus, voyant cela, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il fut indigné. Indigné. Non, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Et surtout, ne les en empêchez pas. Et il va tendre les bras pour les accueillir, les toucher et prier les uns pour les autres. Prendre du temps pour prier les uns pour les autres. Donc là maintenant, On peut se poser cette question, et là, la réponse, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que je l'ai vue, et je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Vous accueillez les enfants. Ici, l'Église accueille les enfants, j'ai pu le voir. Je n'ai pas regardé pour histoire de dire, pour surveiller, mais bon, j'ai vu les beaux locaux tout à l'heure avec Myriam, les affiches, j'ai dit, waouh, ouais, c'est une Église où les enfants se trouvent accueillis. Malheureusement, ce n'est pas le cas de partout. On sent que l'enfant n'est pas pleinement accueilli. En tout cas, continuons à accueillir les enfants, qu'ils se sentent bien accueillis et qu'ils se sentent aussi accueillis dans nos familles. Malheureusement, dans beaucoup de familles, pas chrétiennes, j'espère en tout cas, que ça ne se passe pas dans nos mondes, dans nos assemblées, mais l'enfant est tellement mal accueilli qu'il n'a même pas le temps de croître dans le ventre de sa maman. Il est tué. On n'accueille pas l'enfant. C'est triste à dire, c'est le monde qui tue l'innocent, qui est dans le monde de la maman, mais qui gracie les meurtriers. Ça, c'est la justice du monde. L'enfant qui est innocent est déjà tué. Par contre, le tueur en série, lui, c'est un autre sujet, bien sûr. Lui, il est gracié, etc. Ça, c'est la justice de ce monde. Mais ça, c'est pas la justice de Dieu. Alors, on peut maintenant tourner notre regard, la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, on n'a pas bien sûr l'occasion d'en parler aujourd'hui. Matthieu 18 est ce que je dirais le chapitre clé du ministère parmi les enfants. Là, on y apprend beaucoup de choses. Et vous le connaissez aussi. On va donc essayer de le survoler. J'essaierai peut-être d'appuyer sur telle ou telle chose, mais le temps file aussi. Là, nous revoyons de nouveau les disciples. Matthieu 18, au verset 1er. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent... Alors là, ils commencent à être un petit peu plus spirituels, nos disciples, nos amis. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors là, ils commencent déjà à être un petit peu spirituels. Ils ne disent pas « qu'est-ce qui est le plus grand sur la terre ?» Ah non, 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 ils sont comme les disciples de Jésus. « Ah, bah, Jésus, qu'est-ce qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ou on pourrait presque paraphraser, si vous me le permettez, là, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? On peut paraphraser en disant, et je ne crois pas être antiscripturaire, « qu'est-ce qui est le plus grand aux yeux de Dieu ? » Qu'est-ce qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Donc, en quelque sorte, qui donc est le plus grand ? Qu'est-ce qui est le plus grand aux yeux de Dieu ? Alors, que fait Jésus ? Vous le savez, il prend un enfant. Il prend à l'enfant pour le valoriser. Il appelle un petit enfant et le place sur ses genoux. Et de nouveau, Jésus va bouleverser la conception de l'homme. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Jésus, Dieu, lui, il regarde au cœur. C'est différent. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe. Dieu, lui, regarde au cœur. Et il va dire, regardez et écoutez. Jésus, donc, verset 2, le place un enfant au milieu d'eux et leur dit, je vous le dis en... vérité, comme Marc 10, 13, 14. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Deux conditions sine qua non. Selon Jésus, le Fils de Dieu, maître suprême de l'Église, deux conditions pour entrer dans le royaume des cieux. C'est quoi ? Conversion. Et être un enfant. Indiscutable. On ne peut pas discuter sur les paroles de Jésus. Donc, un enfant, au demeurant, n'est pas sauvé. Un enfant, pour entrer dans le royaume des cieux, que doit-il faire ? « se convertir. Voilà. Ne cherchons pas midi à 14h, hein, c'est marqué. Hein? Il doit se convertir. Ça, c'est... Il n'est pas sauvé. Il est important aux yeux de Dieu, mais il doit se convertir. Mais il a un avantage, c'est qu'il est un enfant. Qu'une chose à faire. Il faut-il qu'il le fasse. Un adulte, pour être sauvé, entrer dans le royaume des cieux, que doit-il faire? Pardon? C'est indiscutable. Deux conditions, deux choses qu'il doit faire. Se convertir, ce qui est déjà beaucoup, et redevenir comme un enfant. Est-ce que vous imaginez la difficulté d'un adulte ayant passé 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie, redevenir comme un enfant? Il doit le faire. C'est-à-dire croire seulement. Comme Jésus va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement pour que ta fille soit ressuscitée. Non, mais imaginez. Imaginez que Jésus dise ça à un adulte, crois seulement. Je dois allumer un cierge. Ou je dois faire mes chapelets. Je dois faire quelque chose. Jésus, pour un adulte, il n'est pas formaté. Comme de cette façon-là, de croire seulement. C'est difficile, imaginez un adulte qu'on lui dise cela, crois seulement, quand il a tellement été formaté par autre chose. Être comme un enfant. Crois seulement, et ensuite, convertis-toi. Il doit faire deux choses. Alors, c'est la difficulté, et je dirais, pas l'illogique de notre famille, on fait notre propre jugement, c'est qu'on attend pour que les personnes se donnent à Jésus, on attend qu'ils deviennent adultes pour leur annoncer l'Évangile. Que ça soit difficile. Le meilleur des terrains, que va dire Jésus, le semeur sorti, Marc 4, 14. Le semeur sort pour semer. Vous voyez, il y a plusieurs terrains. Quel est le meilleur et à votre avis, c'est une parabole. Quel est le terrain qui est le plus apte à recevoir la parole de Dieu, la bonne semence, parole incorruptible? Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant qui n'est pas encore envahi d'épines, de ronces, de cailloux. Et notre mentalité à nous, on attend que le cœur soit envahi de cailloux, de pierres, que ça soit difficile, faut que ça soit quand même difficile, hein. Faut que ça soit difficile, hein. Pour commencer à ensemencer, à jeter la semence, mais pourquoi chercher? On n'est pas dans la logique de Dieu, nous ne sommes pas dans la logique de Dieu. Dieu dit, mais pourquoi attendez-vous que ça soit difficile pour commencer à semer? Non, mais il y a le terrain qui est là. Il y a le terrain qui est là, la bonne terre, jetez la semence. Parce que si vous, comme je disais hier soir, si vous ne jetez pas la bonne semence, l'ennemi, lui, il n'attend pas les années pour ensemencer son ivraie. Une image qui vaut ce qu'elle vaut, et ce partage est tout à fait avec amour, hein, vous avez compris, hein, c'est un partage très, très, très libre, mais c'est quelquefois pour nous laisser interpeller, pour dire, c'est vrai, tout compte fait, c'est pas très logique. Ceux qui travaillent parmi les enfants, ce sont ceux qui, c'est une image, bien sûr. En plus, vous avez des belles montagnes. Nous, en Normandie, on va parler des falaises. Mais là, ici, vous avez des belles montagnes. En haut des falaises, je sais pas si on peut dire ça ici, en haut des montagnes, en tout cas. Et nous sommes là. Nous sommes en haut des montagnes et on essaie en tout cas que les enfants ne passent pas à travers nos mailles et tombent et chutent en bas des montagnes. On est là. Et en bas des montagnes, il y a nos bien-aimés pasteurs qui font leur travail de tout leur cœur et qui sont là pour soigner ceux qui tombent du haut de la falaise, et ils le font bien. Mais si on voulait alléger la tâche de nos bien-aimés pasteurs, charge de nos églises locales, qui sont en bas de la falaise, si on voulait alléger leur tâche, où devrions-nous envoyer en priorité les ministères, en haut de la montagne ou en bas? Pardon? En haut? En haut? Mais, et que fait-on aujourd'hui encore? Il y a beaucoup d'améliorations par la grâce de Dieu. Mais où fait-on encore aujourd'hui? Où envoie-t-on nos ministères encore aujourd'hui en priorité? En bas. Et Dieu va dire, non, c'est bien, il en faut en bas. Mais n'oubliez pas là-haut. N'oubliez pas là-haut, parce que en plus, ça va alléger votre travail en bas de la falaise. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, en tout cas, quand Jésus voit l'enfant, il va le valoriser. Il va le mettre sur ses genoux. Il va dire, voilà, soyez. Aux yeux de Dieu, l'enfant... C'est l'étalon roi, c'est l'étalon. Vous savez, il y a, comme en France, je crois que c'est dans le musée de Paris, le nom m'échappe, il y a l'étalon, il y a le maître. Il y a le maître, l'étalon, on sait que le maître, c'est telle distance. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'étalon. Et aux yeux de Dieu, l'étalon, la valeur légale, aux yeux de Dieu, c'est l'enfant. La valeur légale, l'étalon, c'est l'enfant. Soyez comme des enfants. Ça va? Après, il y aurait des questions. Hein, après, vous inquiétez pas, parce que quelquefois, je peux aussi, et je le comprends. Je peux aussi mal m'expliquer, mal me faire comprendre. Donc, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas. Ça, au moins, j'aurais appris quelque chose ici. Celui qui pose une question peut paraître bête pendant quelques instants, mais celui qui n'en pose pas, il est bête toute sa vie. Je l'avais déjà entendu, mais je m'en souvenais plus. Donc voilà. Merci, pasteur Stéphane. On continue. Au verset 6. Dites-moi, tiens, tenez une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous croyez qu'un enfant peut croire en Jésus? Oui, alors, je le pense aussi, mais maintenant, nous, on est le peuple de la parole de Dieu, on aime la parole de Dieu, nous, c'est pas ce que l'homme pense, mais c'est ce que Dieu dit, que l'homme pense beaucoup de choses, moi, je pense que, bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il y a au moins un passage qui nous montre d'une façon claire, et en plus, quand c'est Jésus, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a un passage qui nous affirme qu'un enfant peut croire en Jésus? La gueule, hein? Là, la brebis perdue? Dans la synagogue, à l'âge de 12 ans. Oui. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'il y a un passage qui nous dit, c'est encore mieux quand c'est Jésus qui le dit, est-ce qu'il y a un endroit qui nous dit, qui nous affirme qu'un enfant peut croire en Jésus? La colle, hein? On est en Matthieu 6. Alors, peut-être que je vous donne une petite piste. On a lu les premiers versets. Allez. Que c'est, bien sûr, c'est marqué. C'est marqué, vous en doutez. Un passage que l'on connaît. À cet endroit, Matthieu 18, toutes les fois que c'est marqué « enfant », à cet endroit, c'est « paidion » en grec. Donc, enfant de 6-10 ans, grosso modo. Dans le grec, il y a plusieurs mots qui signifient certaines tranches de l'enfance. Et là, dans tout Matthieu 18, c'est paidion, pour le situer. Allez, Matthieu 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, pistos, comme dans Jean 3,16, c'est le même terme que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Et là, pareil, c'est exactement en grec le même terme, pistos. Donc, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi. Donc Jésus dit, oui, un enfant peut croire en moi, un petit. Et par contre, un avertissement. Et là, nous allons essayer de voir quelques avertissements que Jésus nous donne concernant notre conduite vis-à-vis de nos enfants. Oui. Ah, excuse-moi. Ah oui, je suis toujours dans Matthieu. Bah, oui. Oui, 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 oui. Je ne me fais pas lapider, ça va? Ça va encore? Ça va? Matthieu 18. Non, Matthieu 18. Hein, j'étais toujours dans Matthieu, excusez-moi. On va rester d'ailleurs quasi maintenant toujours sur Matthieu. Matthieu 18, 6. Vous pouvez m'excuser. Oui, oui. Hein, donc, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, donc comme je disais, croire, c'est le même verbe en grec, le même mot que Jean 3,16. Donc là, c'est un avertissement. Attention à l'enfant scandalisé. Attention lorsque nous sommes en colo, par exemple à Gap, ou au térébinthe, à l'opérette, Coteau Fleuri, etc. Faisons aussi attention lorsque nous faisons du sport avec eux. Les enfants nous observent, ce sont des fins observateurs. Quand on mange avec eux, attention à ne pas scandaliser. Veillons aussi lorsque nous sommes dans un temps de culte. On en parlait hier soir dans les temps de culte pour l'écolo. Faisons attention, vous êtes peut-être animateur, je ne sais, mais attention à notre conduite aussi. Attention aussi à notre conduite dans un culte ou une réunion de prière. Les enfants aussi nous observent. Il y a une petite fille dans un club du dimanche matin qui, son animatrice, dimanche après dimanche, dit « Mon enfant, ma petite fille, tu vas prier ?» Et à chaque fois, elle dit non. Elle dit non. Alors, un jour, l'animatrice dit « Pourquoi tu ne veux pas prier ?»« Parce que je ne t'entends jamais prier à la réunion de prière. » Vérité d'un enfant. C'est vrai aussi que nos enfants, ils aiment entendre leur animatrice, leur animateur prier dans l'église. Donc voilà, un enfant est un fin observateur et ils ont du discernement. Et vous savez, on ne peut pas tricher avec eux. On ne peut pas tricher avec eux. Il y a plusieurs années en arrière, une petite anecdote, vraie, il y avait des belles affiches de Jean-Jacques, n'est-ce pas? Il avait les cheveux encore tout noirs, une moustache toute noire. Et il y avait des dédicaces. Enfin, bon, voilà, c'est, voilà. Et ma petite femme dit, Jean-Jacques, ça va pas, ça. Là, tu es comme dans le monde, hein. Attention à l'idolâtrie, etc. Bon, je reçois, parce que c'est ma femme qui me dit ça, donc je me laisse interpeller par cela. Tout en sachant, je pense que nos enfants ont besoin d'avoir des modèles dans l'Église. Ils ont besoin de voir des modèles, des bons modèles, bien sûr. Sinon, ils vont voir les modèles dans le monde, pas avec les mêmes valeurs. Donc, je me laisse interpeller par cela. Et tout de suite, j'ai eu la réponse de Dieu. Ça a été net. Là, quelquefois, on n'a pas des réponses immédiatement, mais des fois, on a des réponses quand même immédiatement. Et Dieu me dit, écoute Jean-Jacques, je t'ai donné ce ministère. C'est par grâce. C'est un don que Dieu nous donne. On n'a pas à s'en glorifier que tu n'es pas reçu. On n'y revient pas. Les enfants vont te voir, comme les enfants vous voient. Mais ne sois jamais un objet de scandale pour l'un de ces enfants qui t'ont vu, qui t'ont entendu. Parce que si les apprenaient que, trois petits points de suspension, vous imaginez, quel objet de scandale. Vous voyez, un enfant qui croit en celui qui prêche l'Évangile, qui chante l'Évangile et qui apprend que, quel objet de scandale. Donc ne soyons pas un objet de scandale pour eux. Au verset 10, il nous est dit, gardez-vous Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges, et ça c'est pas un enseignement catholique, c'est la Bible, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça va plus vite que les renseignements généraux. Si l'on méprise un enfant, pouf, les anges le disent immédiatement à Dieu. On ne va pas parler, on ne va pas faire une étude sur les ministères des anges. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des anges particuliers pour les enfants. Là, on ne peut pas en parler là-dessus. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'aiguille tourne. Mais Jésus, en tout cas, dit attention à l'enfant méprisé. Ne méprisons pas l'enfant comme en disant, comme David, lorsqu'il va autant au camp d'Israël, apporter le petit pique-nique à ses frères. Ses frères qui vont dire, on connaît la malice de ton cœur. Retourne à tes brebis, à tes agneaux. Ne disons pas à nos enfants, mais tu es trop petit. Bien sûr. Attention, il faut aussi adapter. J'essaye toujours, parce qu'un enfant, lorsqu'il veut m'aider, je ne vais pas le renvoyer. Non, tu es trop petit. Alors, je ne vais pas lui confier quelque chose de lourd. Il dit, allez, tu vas prendre ça. Il est tout content. Quelque chose de pas dangereux, pas trop lourd. Attention, l'enfant n'est pas trop petit pour servir Jésus-Christ. Non, il peut être un outil efficace. Et toute la Bible, d'ailleurs, nous le dit. Et on peut le mépriser, ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr. J'entends bien, on peut le mépriser en le recevant dans des locaux minables, locaux sales. J'ai vécu, il y a plusieurs années en arrière, ça fait au moins une très très bonne dizaine d'années en arrière, mais ça aurait pu être dans nos assemblées, ce n'était pas dans nos assemblées, mais ça aurait pu l'être. Mais rassurez-vous, en tout cas, c'était dans une autre fédération où il y avait un festival parents-enfants. Et moi, on m'avait demandé que je m'occupe des enfants, que je faisais avec plaisir d'ailleurs. Mais le jour même, les enfants, les parents, et ça je l'ai vu, ils avaient le droit à la moquette rouge dans une belle salle. Et nous, on était sous une tente. Une tente, ce n'est pas un problème, mais dans la boue. Dans la boue. Pour installer mon matériel, j'étais obligé d'enjamber. Ça, c'était samedi, dimanche. Le samedi, j'ai rien dit, j'ai gardé ça dans mon cœur, j'ai rien dit. Mais le lendemain, j'ai dit, ça pouvait plus. J'y tenais plus. J'étais voir les organisateurs, je suis légèrement fâché, montrer ma désapprobation, dire je ne comprenais pas que nos enfants, c'était un mépris de recevoir les enfants dans ces conditions. Et comme réponse que j'ai eue, Jean-Jacques, tu vis dans le luxe. Bon, voilà, fermons la parenthèse. En tout cas, on peut mépriser l'enfant en les recevant dans de mauvaises conditions. En tout cas, si le fait de scandaliser un des petits enfants est capable et coupable aux yeux de Dieu, d'avoir une meule jetée autour du cou, comme on l'a lu, on ne dit pas le résultat, les conséquences du mépris. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de conséquences concernant la sentence divine, comme signalé dans le scandale, mais on suppose que dans les cieux, il se passe des choses, parce que Dieu le sait. Il se passe des choses, on ne sait pas. Mais je pense que, en tout cas, la sentence est quand même grave. Et cette déclaration est suivie immédiatement de cette conclusion, qui peut surprendre. Et je dois dire que ça m'a surpris et j'ai mis un certain temps pour comprendre pourquoi. Il nous est dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Je pensais à autre chose en parallèlement. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, on ne comprend pas. Imaginez, là, Jésus est en train de tracer un tableau sur l'importance de l'enfant, pour le scandaliser, qui soyez comme ces enfants qui croient en moi, ne les scandalisez pas, ne les méprisez pas, et d'un seul coup, boum ! Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors là, c'est hors contexte, complètement hors contexte. J'ai prié pour ça. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est dans la Bible. La vérité qu'on peut en déduire, c'est que si l'enfant est important aux yeux de Dieu, néanmoins, il est perdu. L'enfant est important, mais au demeurant, l'enfant est perdu. Et ça, c'est une grande leçon que nous devons comprendre. C'est-à-dire que nos enfants qui sont chéris aux yeux de Dieu, que nous chérissons, néanmoins, ils sont perdus. Et ça, on ne va pas le voir aujourd'hui, il faut, avec grâce, avec amour, avec sagesse, leur montrer qu'ils sont perdus. Parce que s'ils ne savent pas qu'ils sont perdus, comment auront-ils ce besoin, ce ressentir de vouloir être sauvés? S'ils ne se sentent pas perdus, comment voudront-ils être sauvés? Ce n'est pas possible. Donc Jésus va dire, l'enfant est précieux, mais néanmoins, il est perdu. Une parenthèse. L'enfant, là, Jésus, quand il parle dans ce contexte de Matthieu 18, il parle toujours en pensant à l'enfant. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Et il y a la même déclaration avec Zachée. Luc a vérifié, Luc 19, 10. Et là, que va dire Jésus ? Luc 19, on vérifie, je crois que c'est Luc 19, 10. Voilà. Qui peut le lire, Luc 19, 10 ?
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Donc, Jésus parle de l'homme, de l'évangélisation pour les adultes. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Quand Jésus parle de l'évangélisation des enfants, que dit-il ? Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il y a une différence, laquelle ? Chercher. On ne va pas en faire une doctrine. Mais quand on fait l'évangélisation des adultes, on doit aller les chercher. Vous faites de l'évangélisation pour les enfants, faites-le. Vous n'avez pas besoin de chercher les enfants. Ils sont là. Ils sont là. Ils répondent. Ils répondent. Tandis que pour les adultes, il faut aller les chercher. Voilà la différence. Alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pourquoi ? Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et juste après, Jésus va donc raconter l'histoire de la brebis perdue. Notons bien, mes bien-aimés, que, attention, c'est la parabole de la brebis perdue, c'est pas la parabole de Jean 10, la parabole du bon berger. Mais quand Jésus raconte cette parabole, qu'est-ce qu'il a toujours en tête ? L'enfant. Il raconte donc cette parabole de cette brebis. Et donc, c'est contexte enfant pour montrer que l'enfant est bien perdu. Et Matthieu 18, 14, qu'est-ce qu'il nous dit ? La transition entre la parabole et cette vérité de Matthieu 18, 14. De même, c'est la transition. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses enfants. Notre Père qui est dans les cieux, que nous louons, que nous adorons, qui règne, il a une volonté clairement exprimée par Jésus, c'est que les enfants ne soient pas perdus. Et ça, faut le savoir. Dieu désire que l'enfant soit sauvé. Notre Dieu qui règne, il a cette volonté, que l'enfant soit sauvé. Mais posons-nous cette question. Si on ne parle pas de Jésus, comment seront-ils sauvés ? Jésus règne, Il est le chef suprême de l'Église, mais avant de quitter ses disciples, il lance ce message, allez, allez, parlez, annoncez la bonne nouvelle aux adultes. Non, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Marc 16, à toute la création. À toute la création. Et comment pourrions-nous ôter les enfants de la création ? Ils font bien partie de la création. Donc, on a cet ordre. C'est l'ordre ultime de Jésus. Allez. Allez, faites de toute... annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et en notant, je ferme la parenthèse, dans le grec, allez, c'est aller, c'est le fait de marcher, mais pas n'importe comment. Dans le grec, c'est marcher en suivant quelqu'un. En suivant quelqu'un. Et ce quelqu'un, suivez-moi, dit Jésus. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur. Pêcheur d'âme, pêcheur d'homme, pêcheur d'enfant. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle à aller. À aller prier, bien sûr. Prier pour tous ces enfants qui meurent, Lamentation 2, 18, 19. Prier pour tous ces enfants qui meurent de faim spirituelle, bien sûr. Et malheureusement, triste constat, toujours dans les Lamentations, Lamentation 4, 4. Les enfants réclament du pain. Et personne ne leur en donne. Et sachez que dans cette belle ville de Gap, les environs, il y a des enfants qui meurent de faim spirituellement et ils attendent qu'on puisse les nourrir, qu'on puisse leur apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, comment voyons-nous les enfants ? Est-ce que votre regard a-t-il changé ? A-t-il changé ? On va faire un petit temps de break, un petit café. On va aussi peut-être conclure par la prière, non pas pour faire bien, comme dans la tradition, mais je pense aussi que c'est important aussi qu'on puisse remettre aussi nos vies, les yeux de nos cœurs aussi, pour qu'on puisse voir les enfants comme lui les voit. C'est important. Jésus, nous voulons te dire merci, parce que nous avons jeté encore nos regards dans ta parole. Nous avons scruté ta parole, sondé ta parole. Nous voulons encore nous laisser interpeller. Je veux encore, c'est ma propre prière aussi, de me laisser de nouveau interpeller par toi, par ton exemple. Tu es notre modèle, ce modèle à suivre. Et nous voulons être comme toi, voir cette foule qui est devant nous, foule d'enfants, foule aussi d'adultes, et être comme toi, ému de compassion. Que ça aille au plus profond de nos entrailles et que par ta grâce, nous puissions aussi dans ce temps où nous sommes dans le lieu secret, pouvoir pleurer pour nos enfants, de notre famille, les enfants de nos quartiers, les enfants de notre église, afin que, Seigneur, ils puissent aussi passer de cette mort spirituelle à cette nouvelle naissance. Alors merci de nous aider. Merci de continuer aussi ton œuvre dans chacune de nos vies. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen.